c'est le texte d'une conférence que vous avez proposée à des enfants à Montreuil, dans la banlieue parisienne, l'an dernier. Texte qui vient d'être publié sous la forme d'un petit livre, avec en bonus des questions que vous ont adressées certains enfants. Faut-il le rappeler, vous êtes journaliste à la RTBF et vous avez donc à plusieurs reprises fréquenté des territoires et des populations frappées par la guerre. Et au début de votre carrière, vous racontiez l'actualité aux enfants dans votre JT du samedi matin, Nubana News. Et j'aimerais commencer avec vous par ce commentaire que vous formule un enfant à l'issue de votre conférence. J'ai compris que les guerres sont compliquées, mais je n'ai pas compris pourquoi les hommes s'entretuent. Et apparemment, vous non plus, Françoise, vous ne comprenez pas. On leur répond quoi alors aux enfants qui se posent ce type de questions?
Ben, on leur répond que c'est une très très bonne question et que les adultes feraient mieux de se la poser eux-mêmes avant de commencer une guerre. On leur explique qu'une guerre, c'est très facile à commencer. Hein, ça commence comme une étincelle, comme dans la cour de récré, où un grand décrète que la partie de la cour lui appartient. Mais c'est très difficile à terminer. Et surtout, c'est très difficile... ça laisse des traces, une guerre. Ça laisse des traces. Il faut se réconcilier, il faut reconnaître ses torts. Et c'est très compliqué pour les gens qui ont beaucoup trop d'orgueil de reconnaître leurs torts après la guerre.
Oui, vous dites ça. Et justement, en vous lisant, j'ai été frappé par ces mots d'une de vos amies bosniaques. La paix est souvent pire que la guerre. C'est terrible, ça.
C'est terrible. Elle explique que pendant la guerre, eh bien, la solidarité s'organise. Les gens s'entraident. Si quelqu'un est touché par un sniper, ben, on va le secourir. On partage la nourriture. Mais après la guerre, comme les salauds gagnent toujours, comme les nationalistes restent au pouvoir, comme les profiteurs de guerre se sont enrichis pendant la guerre, eh bien, les héros qui se sont révélés pendant la guerre deviennent sont méprisés et perdent leur aura. Donc, une guerre fait émerger des héros, mais fait aussi émerger des salauds.
Guerre en Ukraine, guerre entre Israël et le Hamas. Comment faut-il s'y prendre pour raconter ces guerres aux enfants? Il faut tout leur dire?
Pas tout.
Il faut adoucir.
Oui, il ne faut pas leur montrer des images trop choquantes dans la guerre qui touche Israël et la Palestine. On voit beaucoup d'images d'enfants blessés, d'enfants morts. Il ne faut peut-être pas leur montrer ces images-là. Mais souvent, un enfant demande qui a commencé, hein, qui est le coupable, qui a commencé. Bon, dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, c'est assez facile. Je veux dire qu'on peut identifier, entre guillemets, les bons et les mauvais. Il faut éviter de tomber dans le manichéisme. Donc à Israël, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'il faut dire la vérité, reconnaître nos torts historiques. Dans le cas de la création de l'État d'Israël, voilà, il faut leur expliquer comment l'État d'Israël est né, par exemple.
Et sur le terrain, quand vous y êtes, apparemment, ce sont les enfants qui disent davantage la vérité.
Mais souvent, je m'adresse à des femmes ou à des enfants, parce que les hommes sont... sans doute plus touché par la propagande, par le... oui, c'est ça, la logique de la guerre de leur pays. Les femmes disent plus la vérité, les enfants aussi. Donc, c'est ce que j'ai dans le petit bouquin, je n'aime pas trop parler aux hommes politiques parce qu'ils ont leur vérité à eux. Par contre, les femmes et les enfants disent plus la vérité, il me semble.
Vous expliquez la guerre aux enfants et puis vous expliquez aussi votre métier de journaliste en temps de guerre. Et dans votre texte, vous expliquez qui sont les fixeurs. Ce sont ces personnes qui aident et qui guident les journalistes sur le terrain, qui traduisent aussi. Et vous confiez que vous préférez les fixeuses aux fixeurs.
Ben écoutez, moi j'ai toujours pris des fixeuses parce que quand il m'est arrivé de prendre des hommes, eh bien, ils étaient, comme je le disais auparavant, plus soumis à la propagande, les femmes sont plus fiables. Et je veux aussi souligner le fait que les fixeuses, enfin les traducteurs de guerre, sont en première ligne. C'est eux qui recueillent les confidences des victimes souvent. Et ils prennent en pleine figure ces histoires qui sont de leur propre pays, parce qu'en général, ils sont du pays. Et on ne leur rend pas assez hommage parce que, par exemple, ma fixeuse en Bosnie à l'époque, elle a fait une dépression nerveuse 10 ans après la guerre, tellement elle avait emmagasiné de chocs émotionnels dans les confidences qu'elle avait recueillies, qu'elle n'avait pas eu le temps d'expurger. Nous, on quitte ce pays, on part, on abandonne un peu les gens à leur sort. Et elle, comme d'autres, avait pris en pleine figure tout ça et l'avait payé très cher plus tard.
Face aux enfants, vous expliquez aussi la question de l'objectivité journalistique, question délicate, et vous confiez, personnellement, je ne crois pas que ça soit possible d'être complètement objectif. Pourquoi ?
Effectivement, on va sur le terrain avec nos tripes, avec nos sentiments, on tombe amoureux de certains pays, on se fait des copains, des amis, très forts d'ailleurs, très très profonds. Donc c'est difficile de rester absolument neutre et distant de ce qui se passe.
Comment faire alors pour ne pas choisir son camp, si je puis dire?
C'est ce que je leur dis, on essaie de parler à tout le monde. On essaie d'aller dans chaque camp, de chaque côté de la frontière et de parler à tout le monde. Mais c'est difficile vraiment d'être absolument neutre, c'est impossible, impossible.
Une de vos clés essentielles quand vous êtes sur le terrain, c'est de faire confiance à votre intuition. Elle joue quel rôle, l'intuition, quand on est dans un pays en guerre?
C'est difficile, elle se forge avec le temps. On sent quand ça devient dangereux, par exemple, on sent qu'il faut déguerpir. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. On le sent, c'est un sixième sens. Et c'est un peu lui dit, mais non, on reste encore. Il faut lui dire, moi je pars. Je détale parce que je sens que c'est bien dangereux.
Et c'est avec le temps que cette intuition, en quelque sorte, se développe, Françoise Wollmack?
Je pense que c'est avec le temps, oui, effectivement.
Ouais. Allez, encore une question très inattendue de la part d'un enfant. Quel est votre rapport à la mort?
Alors, je ne sais plus ce que j'ai répondu à cet enfant, mais il pose des questions géniales, les enfants.
Oui, c'est déstabilisant.
Oui, c'est déstabilisant. Je lui ai dit, je pense, en tout cas, quand je prends l'avion pour partir dans un pays en guerre, je fais attention à ne pas m'être brouillée avec quelqu'un avant. Donc, je règle toutes les disputes avant de prendre l'avion parce que je ne sais jamais si je vais y revenir. Donc, il ne faut pas qu'il y ait
des disputes. Vous faites la paix avant de partir dans des pays en guerre.
C'est une très belle phrase.
C'est un peu ça, votre démarche. Oui. Et puis, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes face à des morts.
Ça arrive, mais je disais aux enfants, j'en ai pas vu tellement. J'en ai vu beaucoup, par exemple, après le tsunami. Et là, c'était pas du tout trop troublant parce que c'est pas les hommes qu'ils avaient tués, c'était la nature. Une guerre est vraiment pire qu'un séisme. Affronter un séisme, voilà, c'est la nature qui a tué les gens. C'est moins grave que quand c'est les hommes qui ont tué des hommes.
Vous n'avez pas peur, apparemment?
J'ai peur avant de partir, j'ai peur quand je reviens, mais j'ai pas peur pendant. Non.
Comment ça se fait?
Parce qu'on est là.
On
est dans le présent. On travaille, voilà. On bosse.
Oui. Pas de larmes non plus, apparemment, quand on est sur place.
Je ne vais pas me permettre de pleurer devant des gens qui pleurent eux-mêmes. Non, non.
Dernière question. Pourquoi emmenez-vous partout avec vous sur le terrain votre singe en peluche, Françoise Wollmack?
Parce qu'il me fait rire, il me rassure, il a une bonne bouille. Et quand je rentre à l'hôtel, que le cheval sur mon lit, ça me rassure, voilà.
C'est grâce à lui que vous tenez le coup. Il a un petit nom?
Non.
Voilà, on pourrait lui en trouver un, hein, si celles et ceux qui nous écoutent ont des idées. Merci à vous, Françoise Wollmack. Raconter la guerre, c'est le texte que vous signez et ça vient de paraître chez Bayard. Bonne